Salut,
salut Charline.
Alors l'émission d'hier, c'était sympa, non?
Ah oui, enfin une bonne émission de gauche.
Oui, bien. Voilà, on se reconnecte avec notre base. Ouais. C'est bon pour l'audimat. Voilà.
Ah, ça va, c'est bon, c'est pas la peine.
Et quelle personnalité cette Léa Frédéval, hein, jeune, engagée, tout ce qu'on aime.
On est géré par des gens qui ne savent pas ce que c'est que remplir un dossier de CAF ou un dossier au Pôle emploi.
Ouais, salaud de politicien.
Bah, voilà. Toi, Alex, t'étais un peu en dedans, par contre.
Bah ouais, mais c'est comme ça. Mais quand vous êtes trop à gauche, moi je vais récupérer le reste de l'auditorat.
Ah, bon,
ah bah, je savais pas que notre auditorat se divisait entre les gens trop à gauche et les amateurs de mauvais jeux de mots.
Pourquoi tu dis ça?
Bah pour cette brève, par exemple.
Un chat allume une plaque de cuisson, déclenche un incendie et meurt dans les flammes.
Oh là là.
Un chat qui commet un attentat kamikaze, à tous les coups, c'est un chat lapiste.
Brillant, brillant.
Oui, bah ça vous a peut-être pas fait rire, vous, mais ça a beaucoup plu à l'invité,
par
exemple.
Ah oui,
ah oui. Bah oui, elle en pouvait plus, on a failli la perdre.
Prenez votre respiration et, et parlons
c'est
de...
C'est le chat lapiste, hein, ça.
Parlons de demain matin.
Non, elle pensait à autre chose. Hein,
bah, non, mais imagine la base, un invité meurt en direct dans Par Jupiter.
Ah, c'est une excellente brève.
Non, mais moi, je voudrais qu'il arrête les jeux de mots.
Non, non, non.
Mais si, parce que ça déculpabilise les autres de l'équipe après.
Ah, mais tonton, il existe encore des jambons.
Jambon.
Ça progresse.
Oui. Tu vois, Alex, tu l'encourages, là.
Non, mais en plus, il note ses petits camarades. C'est pas bien.
Monsieur fait le professeur.
Oui, bah écoutez, un prof sur France Inter, c'est rassurant pour l'auditeur parce qu'il en est sans doute un lui-même.
Attends, voilà. Du coup, le prof, ce serait plutôt notre auditeur de gauche ou notre auditeur fan de mauvais jeu de mots?
De gauche.
Ouais. Ouais.
Bonjour la France Inter, vous êtes à l'écoute du Front de Libération de Nicolas Hulot, détenu depuis 368 jours au sein du gouvernement. Et voici les trois informations que nous avons choisies tout en lançant une pétition disponible sur change.org pour mettre fin à sa captivité. Hashtag Free Nicolas.
Rendez-nous Nicolas, salaud.
Le ministère de l'Éducation veut muscler les fondamentaux à l'école. Les fondamentaux, c'est notamment la dictée, ça on le sait, mais aussi l'apprentissage de la Marseillaise.
Tu sais bien que tu dois être habillée en bleu dans ta nouvelle école. Et moi, je te trouve très mignon comme ça. Mignon? Mais je suis pas mignon. Je ressemble à le batrain des choristes.
La métropole s'intéresse soudainement à la Guyane parce qu'elle abrite la Montagne d'Or, un gisement que le gouvernement aimerait bien faire exploiter par une entreprise canadienne s'il n'y avait pas ces emmerdeurs d'écolo en travers du chemin.
Ça c'est mon or. Et mon or c'est mon argent.
L'enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon, c'est une invention récente devenue une pression sociale comme le mariage en fond. L'idée c'est de survivre à un dernier week-end de débauche.
Un spectacle avec des godes.
Oui, si tu penses pouvoir le caser dans la soirée, c'est mon vieux.
Okay. Et je n'ai osé faire de transition, avec Alex Vizorek.
C'est pas nécessaire. Bonjour Charline Valonaker. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, une belle équipe autour de la table à 17h20. Celle qui porte chance à l'équipe de France, donc a priori j'annoncerai un but pendant sa chronique. C'est Mélanie Bauer, bonjour.
Bonjour, et moi aujourd'hui je vous emmène à Budapest.
Mais c'est pas vrai, attention, on a failli avoir un but des Danois. Excusez-moi, 17h30. Celui qui aujourd'hui va traiter du nucléaire avec lequel il a un point commun. Il est tout petit par rapport aux dégâts qu'il peut créer. C'est vous Guillaume Meurice.
Bonjour à tous, je suis allé au salon du nucléaire ce matin. Et vraiment, je vais vous rassurer complètement quant au danger, par exemple des catastrophes et des centrales qui explosent.
Tchernobyl, c'était pas très très sérieux.
Non, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de laisser aller à Tchernobyl.
Et enfin, à 17h40, celui qui en prend sans doute de la toute bonne pour nous en écrire des toutes bonnes, c'est Hippolyte Girardot. Bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
On va parler du Corée qui parle, Coco qui est morte la semaine dernière.
Oh là là, séquence émotion.
Je rappelle que nous existons dans un monde virtuel, sur Twitter, hashtag Par Jupiter, et sur Facebook, où nous avons publié un message pour la libération de Nicolas Hulot. N'hésitez pas à aller sur Facebook et signer la pétition.
Bring back our Nico.
Et voici celle qui rejoint notre front de libération, qui sera signataire de cette pétition, bien sûr.
Bien sûr.
Vous suivez des cours de théâtre. Absolument. En même temps que votre maîtrise de lettres modernes, puis vous entrez au conservatoire. Vous débutez au théâtre avant de faire vos premiers pas au cinéma, notamment dans Micmac à Tire-Larigot de Jean-Pierre Jeunet. Vous êtes ensuite révélé au grand public dans Parcours meurtrier d'une mère ordinaire, l'affaire Courgeot, le téléfilm de Jean-Xavier de l'Estrade, puis vous jouez dans la série de Canal+, Les Revenants, de Fabrice Gobert. Ensuite, dans Par au mode d'emploi, bien sûr, le programme court juste après le 20h de France 2, et dans un registre dramatique Disparu, cette série de France 2 également, réalisée par Charlotte Brandström. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Alix Poisson.
Ouais.
Bonjour.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, sur France Inter.
Très bien, mal.
Hein, il a mal.
Ah, il y a quelqu'un le Danois sur le terrain souffre, qui souffre. Oui. Ouais.
Enfin, il fait semblant, mais.
Oui, bah voilà, exactement.
On n'a que des spécialistes de foot, j'ai l'impression, autour de la table.
Donc, ça, c'est pas être spécialiste, hein. C'est fastoche.
Nous avons un œil, donc vous pouvez vous concentrer sur la radio. On vous préviendra quand il se passera quelque chose. Alex Poisson, en notre compagnie, car vous jouez dans Budapest, le film de Xavier Jans qui sort en salle demain avec Manu Payet, avec Jonathan Cohen, avec Monsieur Poulpe, notamment Alice Belaïdi. Alors, Alex Vizorek, je vous laisse cuisiner.
J'ai regardé, je me suis marré cuisiner le poisson, elle est bonne. Félicitations.
Mais c'est pas fait exprès,
alors là, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, c'est ben, d'habitude, c'est moi qui le fais, mais. Alors,
je l'avais pas en disant.
Bah, j'imagine.
Des blagues sur mon nom, il y en a eu un paquet.
J'imagine.
Ah oui, parce que poisson, c'est un peu comme l'animal.
Voilà, c'est le lien. Bon, Budapest. Non, bah écoutez, je le pitch.
Ah bah allez-y, pitchez mon ami.
Deux potes, Manu Payet, Jonathan Cohen, sortent de grandes écoles de commerce. Il y en a un qui s'emmerde un peu dans la boîte de son beau-père, dont vous êtes la fille du beau-père vu que vous êtes la compagne de Jonathan Cohen. L'autre pourrait dans une grande multinationale et fait une connerie et est un peu mis sur le côté. Et ils se disent, en fait, est-ce qu'on ferait pas un truc nous-mêmes?
Et ce sont des boursiers, pardon, je vous interromps, mais ils ont cette espèce de complexe du boursier. Voilà, ils sont stigmatisés depuis qu'ils sont rentrés à HEC ou je ne sais quelle école, et ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas du tout à décoller, quoi.
À créer quelque chose eux-mêmes.
Ouais, à créer quelque chose eux-mêmes.
Et donc, en allant à un enterrement de vie de garçon un peu raté, ils ont la bonne idée, créer leur propre boîte. Je vais plus loin ou c'est vous ?
Comme vous voulez, bah, ils créent leur propre boîte qui va se spécialiser dans les enterrements de vie de garçons, mais à Budapest, parce que la stripteaseuse un peu étrange de la première boîte de nuit leur a dit que c'était beaucoup plus facile, beaucoup moins cher, et qu'on avait accès à toutes sortes de choses étranges et peut-être pas forcément légales à Budapest.
Qu'on a affaire ici à une vraie comédie générationnelle du trentenaire? Parce que parfois il y a des comédies pour les jeunes, parfois pour familiales, et ici c'est vraiment de notre génération, le entre 25 et 35.
Déjà, ça me fait plaisir que vous me mettiez dans cette génération.
Moi, je vous mets tous.
Parce que, je sais pas, je crois que c'est un peu plus large que ça, non? Parce que je pense que même des plus jeunes.
Cette espèce de mode de partir.
Il y a un côté very bad trip aussi, un peu, qui peut parler à beaucoup d'étudiants, je pense. Sans le côté enterrement de vie de garçon, je veux dire, oui, mais le côté fête et débauche absolue, il y a un spectre plus large.
Quand vous dites un côté very bad trip, c'est un film américain, je pense. Et justement, ici, il y a une réalisation qu'on pourrait dire presque à l'américaine. C'est assez frappant dans la réalisation de Xavier Jans. Ouais. C'est vrai que c'est une comédie, du point de vue de l'image, de l'esthétique, de l'action, etc., qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir en France. Non,
bah, c'est bien, c'est bon signe. Si vous dites ça, c'est cool. Oui, bah, c'est-à-dire que Xavier, en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a apporté sa patte, parce que lui, il vient pas de la comédie, à la base. C'est un monsieur qui a aussi fait des films d'horreur, très pointus, en fait, et qui a travaillé aux États-Unis, entre autres. Et du coup, il a un traitement de l'image que moi, j'aime bien, parce que du coup, ça apporte une étrangeté. Toutes les scènes de boîte de nuit, toutes les scènes, elles sont pas que festives et drôles. Enfin, il y a un côté onirique, étrange, et je sais qu'il avait plein de références en tête, ouais, qui n'étaient pas forcément de la comédie.
Et plein de références de pop culture aussi, il y a des hommages aux différents films qui se glissent à l'intérieur, à nous les reconnaître.
Il y a plein de chouettes second rôles, parce que vous, Alice Belaïdi, le vendeur d'armes hongrois est exceptionnel.
C'est Arthur Benzaken. C'est Arthur Benzaken, qui est méconnaissable. Ouais.
Comment, parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes une actrice qu'on voit beaucoup, je pense que vous devez recevoir beaucoup de scénarios, comment est-ce qu'on choisit justement une bonne comédie, un bon second rôle dans une bonne comédie?
Je crois que ça vraiment dépend vraiment des fois, mais là le point de départ surtout, c'est que en fait moi j'avais rencontré Manu Payet parce qu'on avait tourné ensemble dans le film de Cyril Gelblat qui s'appelait Tout pour être heureux, qui est un super beau film, je trouve.
Manu Payet qui a co-scénarisé le film.
Oui, tout à fait. Et en fait c'était assez étonnant, ça n'arrive pas souvent. On s'était rencontré sur ce film, j'avais, je crois, deux jours de tournage. C'est très court. Et en fait, on s'était énormément appréciés. C'est-à-dire que dans le jeu, je sais pas, il y avait eu un truc, il y avait eu une espèce d'alchimie. On était hyper contents de jouer ensemble. Et on s'était quittés, ce qui est quand même assez rare. Et puis surtout, on se dit oui, enfin, on dit ça, mais enfin, ça n'arrivera peut-être pas. On s'était quittés en se disant, ah, j'aimerais bien qu'on retravaille ensemble. Et en fait, c'est lui qui m'a appelé. Et j'ai trouvé ça extrêmement galant et attentionné. Il m'a appelé en me disant, voilà, je suis en train de co-écrire ce film et j'aimerais vraiment que tu sois la femme d'un des deux protagonistes.
Donc ça n'avait rien à voir avec le scénario.
Non, si, parce qu'après quand j'ai lu... Non, mais parce que ça part parfois aussi de ça. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai rencontré Manu plus, et puis après, j'ai rencontré... Enfin, Jonathan, je le connaissais parce qu'on a fait le conservatoire ensemble. Alors, on se connaît depuis un paquet d'années. Et Alice, et je me suis dit, c'est quand même une bande de doudingues. Donc, le scénario était déjà prometteur, mais après, je me suis dit... Enfin, comment dire, la promesse de départ était super, mais après, vous voyez ce que ça peut donner avec les espèces de dingos qui sont. Parce qu'ils sont quand même dingos.
Et c'est vrai que c'est un trio qui fonctionne très très bien parce qu'il se connaît très bien. Et donc on sent bien la mayonnaise prendre à l'écran sous la caméra devant la caméra de Xavier Jans. Ça sort en salle demain. Alix Poisson, vous êtes extra dans ce film. Éric Judor l'a dit juste avant. Chez Antoine de Caunes, je confirme. Ça s'appelle Budapest. Ça sort en salle demain. Alix Poisson avec nous, qui est toujours dans Parents Mode d'Emploi. C'est tous les soirs à 20h50 sur France 2. Il y a Mélanie Bauer, Hippolyte Girardot, Alex Guillaume, le Front de Libération de Nicolas Hulot, jusqu'à 18h.
Because my heart is true, she said, baby, everything is alright.
Uptide, everything alright, c'est Stevie Wonder qui le dit, donc c'est que c'est vrai. À 17h21 sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Alix Poisson est en notre compagnie pour le film Budapest qui sort demain, film de Xavier Jans. Quel est le score, Alex ?
Toujours 0-0, Charline.
D'accord, très bien, merci.
On avance bien.
Qu'est-ce qu'elle est chiante avec son foot, elle demandait toujours le score.
Ce match n'a donc bien aucun intérêt, aucun. Raison de plus pour rester à la radio. Faux. En compagnie de qui aujourd'hui ?
En compagnie, vous l'avez entendu, Guillaume Meurice, Mélanie Bauer, donc le but tombera a priori dans quelques minutes. Et Hippolyte Girardot nous parle de gorille.
Alix Poisson, c'est l'heure de l'information actuellement.
Ah oui, c'est ça.
Okay. C'est très important.
Non, tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur ?
Le journal de presque 17h17.
Monsieur le président, mon éminence. Je sors mon éminence.
Et on commence par les titres.
Emmanuel Macron a offert le journal d'un curé de campagne de Bernanos au pape François.
Oui, ça change d'habitude Macron quand on lui parle d'offrir des trucs. Il n'est pas question de curé de campagne, mais de comte de campagne.
Éric Ciotti veut ajouter laïcité à la devise nationale de la France.
Oui, déjà, si dans la devise de la France, ils pouvaient assimiler le mot fraternité avant d'en ajouter un autre.
Parce qu'il y aura des brèves.
Oui, parce qu'il reste plus que 4 jours de brèves, Charline.
Plus que 4 jours.
Et on commence donc par la politique française.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annonce un logo zéro alcool pendant la grossesse sur toutes les bouteilles alcoolisées.
Oui, alors que la meilleure solution pour ne pas avoir de problème avec un enfant reste quand même le logo zéro alcool avant la grossesse sur les bouteilles alcoolisées.
Éric Ciotti veut rajouter donc le mot laïcité à la devise nationale de la France.
Oui, le même Éric Ciotti qui souhaitait ajouter la notion de racine chrétienne de la France dans la Constitution.
Ah oui, c'est
oui, ça. Oui, Ciotti, soit il est bipolaire, soit il est pas bien malin. Et entre nous, j'ai une petite idée.
International, oui. Lors d'un meeting, Donald Trump a vanté la qualité de sa chevelure en déclarant « C'est l'un de mes plus grands atouts ».
Oui, Kim Jong-un ne lui suffisait pas. Donald Trump s'en prend maintenant à Alain Juppé.
Ce serait qui, quoi ses autres grands atouts?
Son grand atout, c'est de ne pas avoir de miroir, je pense, Donald Trump.
Allez, retour en France, oui. Où les bouchers charcutiers demandent la protection de la police contre les véganes.
Oui, je ne sais pas trop de quoi ils ont peur. Les bouchers, les véganes, ils ne vont pas les manger, a priori, donc ça c'est sûr.
Vous croyez qu'ils ont peur d'autre chose?
Je pense qu'ils angoissent à l'idée d'être obligés de manger des saucisses de tofu. Et ça, c'est vrai que c'est stressant.
Et tiens, en Belgique, les policiers pourront faire passer un alcotest à leurs collègues sans autorisation préalable.
Voilà, autant dire que dans 6 mois, il y aura autant de policiers en Belgique que d'adhérents au MoDem.
Alors, restons-y en Belgique,
oui.
Tiens.
Ben oui, on a eu droit à une visite de qualité. Gérard Depardieu est venu en Belgique et il était tellement content de croiser des journalistes.
Ah, vous allez me foutre la plaie quand même. Okay. Même si vous êtes joli.
Santé, monsieur Depardieu.
Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me bon, ok. Merci.
Voilà. Et vous êtes bien placé pour le savoir, Charline. La journaliste belge n'aime pas qu'on lui dise quoi faire.
Et quel regard vous avez sur la politique française, Macron?
Non, je parle pas aux journalistes, je parle pas aux
politiques s'il vous plaît.
Mais c'est pas vrai. C'est quoi cette maladie?
Il était pas content.
Je sais pas si on va l'inviter du coup. Revenons en France avec ce chiffre. La mortalité infantile ne baisse plus en France depuis 2005.
Oui, mais maintenant que Nordal Lelandais a été arrêté, ça devrait quand même aller mieux l'année prochaine.
Coupe du monde. Oui. Un Anglais s'est pointé en Russie pour assister au match de son équipe face au Panama avant de se rendre compte qu'il avait oublié son billet chez lui.
Faire des milliers de kilomètres pour rien. On dirait Ségolène Royal depuis qu'elle est ambassadrice des pôles.
Et les Bleus jouent en ce moment. Ils semblent réconciliés avec la presse.
Oui, jusqu'à hier, il y avait un doute. Et d'ailleurs, il y a un journaliste qui en a parlé à Paul Pogba.
Est-ce que tu nous aimes, Paul?
Je vous aime tellement. Vous m'avez manqué. Mais c'est vrai que je suis pas trop bavard.
Il y a du love dans l'équipe de France.
Ça mérite de brèves.
Oui, de brèves. Dans les Deux-Sèvres, à Mazières en Gâtine, le club échangiste L'Inattendu en feu. Et quand on a le feu au cul, après ça se propage.
C'est brillant, la dernière.
C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui écris le titre. La dernière, alors ça c'est le suivi d'une des meilleures brèves de l'année. Ouest France nous apprend aujourd'hui qu'à Brest, le fameux unijambiste qui roulait alcoolisé sans permis à contresens n'a eu qu'un sursis.
Ah, donc du coup, il est en liberté.
Oui, et Patrick Sébastien va donc pouvoir l'inviter dans le plus grand cabaret du monde.
Merci, Alex Vizorek.
De rien, je suis vigilant.
Alix Poisson est en notre compagnie. On va aborder ce premier sujet qui va changer le monde. Attention. Ah. Pour la prochaine rentrée scolaire, le Conseil supérieur des programmes préconise la dictée, bien sûr, ça on le savait, mais aussi l'apprentissage de la Marseillaise, étalée sur plusieurs années, attention, avec pour ultime étape, je cite, « être capable de la chanter en public ». Allez, chacun à son tour au tableau.
Mais pas en entier.
Boniface.
Maréchal, nous voilà.
Qu'est-ce qui t'a appris ça, toi?
C'est mon grand-père.
T'as un peu démodé. Bon, à gauche. Clément.
Aux armes, citoyens, tête de chien. Formez vos bataillons, bande de couillons.
À droite.
Gérard Junot, bien sûr, dans Les Choristes, le film de Christophe Baratti. C'est un article paru dans Le Figaro aujourd'hui. Oui, vous disiez, Alix Poisson, j'espère pas en entier.
Mais j'espère pas en entier, il y a vachement de couplets.
Ah oui, ça... vous n'êtes jamais arrivé au bout.
C'est très long. Oh ben non, on connaît tous le premier, non, c'est tout. Je crois. Hein?
Il y en a qui sont pas très sympas, surtout.
Bah surtout, voilà, c'est très violent tout ça.
Exactement.
C'est vrai. Vous vous rappelez comment vous l'avez apprise?
Oh! Absolument
quelque
pas.
Chose dont on se rappelle pas.
Alors
en fait.
Là, vraiment pas. Ouais. Alors là, certainement pas à l'école, mais pardon, mais on l'apprenait pas à l'école. Non, en regardant des matchs de foot, non.
Par exemple, oui, oui. Mais est-ce que ça vous paraît incongru ou normal ou important d'apprendre la Marseillaise à l'école?
Je crois surtout que c'est, il y a des choses, enfin, à mon sens, plus urgentes à faire. C'est-à-dire que si l'idée c'est d'inculquer une sorte de fierté, de je sais pas, d'appartenir à son pays et tout ça, je pense qu'on peut le faire d'autres façons. Mmh. Et parce qu'il y a des belles valeurs quand même républicaines, mais on peut les expliquer mieux que juste en apprenant une chanson. Et après, oui et non, à mon sens, il y a des trucs vachement plus urgents à faire. Ouais. Après, bon. Voilà, hein. Je pense que chaque institut fera comme il veut dans sa classe, en fait.
Parce qu'après, c'est quoi? C'est hisser le drapeau, ces choses-là qui vont arriver. Hein,
nous fait du fromage.
C'est vrai. Attention, c'est très détaillé. C'est le Conseil supérieur des programmes qui a dévoilé ses préconisations pour la rentrée 2018. Je vous lis le détail. Hein. En CP, les élèves apprennent à reconnaître la Marseillaise. En CE1, ils apprennent
parmi
à chanter.
Ça,
en CE1, ils apprennent à chanter le premier couplet.
Il y a Michael Jackson. Il y a
des pièges.
Hop, il y a la Marseillaise.
Ouais. En CE2, ils savent chanter par cœur ce premier couplet. Et en CM1, ils savent chanter par cœur un ou plusieurs couplets de la Marseillaise.
Ah ouais, quand même,
Alors, c'est un sujet qui est revenu régulièrement sur le tapis. Hein, mais il avait débuté en 85 avec cette idée du ministre de l'Éducation nationale d'alors qui était Jean-Pierre Chevènement.
Ah.
Et ça, une idée de Jean-Pierre Chevènement, c'est toujours bien de
ça
se mettre.
Pas, quoi.
Ça se garde.
Ça se garde au
ça
frais.
Se garde au frais.
Ouais.
Mais en expliquant un peu, il compte l'expliquer cette. Parce que si c'est juste pour la chanter bêtement et répéter sans comprendre ce qu'on dit, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, voilà.
C'est juste un symptôme d'un retour à des valeurs nationalistes extrêmement diverses et variées qui sont absolument partout. Et que Chevènement soit à l'origine ne m'étonne absolument pas.
Certains diraient patriotique.
Non, c'est pire que patriotique.
Vous avez raison, Alix Poisson, sans doute que certains enseignants auront à cœur de faire l'exégèse critique du texte.
Non, mais c'est-à-dire, parce qu'ils vont être obligés de le faire ou ça va être laissé à l'appréciation de chaque institut, de chaque directeur.
Il y a certains professeurs qui seraient de gauche et qui donc ne se jetteraient pas dans l'apprentissage de la Marseillaise.
Ils doivent chanter en public après. Enfin, imaginez une petite Charline, ça peut faire quand même des dégâts. C'est pas tout en mi bémol. Non, mais le mi bémol, d'accord, mais je veux dire le. Non, mais.
Vous faites beaucoup de peine, Guillaume. On va passer.
C'est un musicien qui parle.
Non, on va passer à Mélanie Bauer. Parce qu'Alix Poisson n'est pas là pour écouter
attention,
vos billevesées.
On se tourne tous vers la télé parce que ça va scorer.
On a cru que ça scorait.
Mi bémol, toujours.
Allez-y.
Mais c'est pas un peu. Ça fait un peu pare-feu, non? Enfin, je sais pas. C'est toujours. Non, mais je trouve qu'il y a un côté où tout à coup, bam, on lance un truc comme ça. On va. Et puis derrière, comme ça, hop, on met sous le tapis les autres trucs qu'on va pas faire. Et voilà.
Je pense que vous avez tout compris au gouvernement. Le gouvernement est expliqué par Alix Poisson.
Non, j'irai pas jusque-là.
Mélanie.
Alors, en Belgique, il y a Dour. En France, il y a les vieilles charrues, le Paléo en Suisse, Glastonbury en Angleterre. Mais ce sont de toutes petites choses en comparaison avec la Hongrie. Et le Sziget Festival, le plus grand festival d'Europe à Budapest. Vous imaginez 500 000 personnes venant d'une centaine de pays différents, une cinquantaine de scènes, des chapiteaux pour des concerts de stars internationales, du cirque, du cinéma, de la musique classique, des rêves, une sorte de condensé de culture sur une semaine au mois d'août sur l'île d'Obuda au bord du Danube. Sziget signifie île en hongrois et c'est la 26e édition cette année. Alors d'un point de vue journalistique, c'est intéressant de regarder la prog parce qu'elle nous dit beaucoup de choses sur les époques musicales. Par exemple, si on se penche sur l'histoire du festival, on se rend compte que Guillaume Meurice habite en 2005. C'est l'année du concert de l'ultime tournée avant réformation de Skapé.
C'est ça qu'on écoute en ce moment.
Mais ouais!
Il est pour content. Le bongo, ça, non
ouais, il est content, le Meurice.
Ah ouais, on aime, on vous en parle.
En 2009, donc, pour le retour de Skapé, Guillaume Meurice aurait pu croiser Charline, car sur cette édition-là, à l'affiche du festival, il y avait aussi Tikenja Fakoly. On imagine aisément pendant ce temps-là, hein, Hippo et Alex qui seraient restés en France pour siroter une suze en écoutant Michel Sardou. Alors, pour cette année, vous me direz, quelle est donc la tendance? Eh bien,
oui,
comme nous l'ont... Oui, c'est vrai, quelle est la tendance?
Vous le demandez.
Eh bien, comme nous l'ont prouvé Jay-Z et Beyoncé, en mettant les pieds dans les petits plats de la culture blanche au Louvre, la tendance est au hip-hop avec en super tête d'affiche Kendrick Lamar, le rappeur californien avec son album Damn et le classique Humble. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch, sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch, sit down. Eh oui, bitch, sois humble, assieds-toi. Kendrick Lamar, tête d'affiche.
C'est ça qu'on devrait apprendre aux gamins au lieu de la Marseillaise.
Dan Panayotescu, Main Stage, hommage à l'ancien manager du festival décédé en 2016. La plus grande scène de Lille, avec une capacité de 45 000 personnes, vous imaginez. Et pour nous, petits Français, on attend entre le 8 et le 15 août le retour du Club des Losers. Oui, le fameux Fusati avec son masque blanc, ici déguisé en cosmonaute.
C'est la fin de la bouteille, sous l'art dubitatif de mon envie d'oseille. Elle entreprit que je quitte l'entreprise pour m'éviter, puis me dit de méditer sur les lois de la gravité. Il y aurait d'autres satellites autour de sa cellulite, quand les ventes de lancement deviennent tout interdites. C'est ainsi qu'on finit souvent par s'auto-perfuser. Je voudrais partir très loin, mais j'ai pas le
temps de refuser. Non,
c'est une blague. J'aime bien faire cette blague dans la chronique de Mélanie.
Vache. Bon, bah, je vais pas vous faire toute la programmation, mais on notera tout de même le retour des Négresses Vertes et aussi La Femme, le chanteur de groupe Oasis, Liam Gallagher, La Grosse Bouche de Lana Del Rey, le bien connu de la playlist d'Inter, Asaf Avidan. D'ailleurs, quasiment toute la playlist Inter y est représentée. Et enfin, à l'affiche, les artistes dont l'empreinte carbone sera la plus lourde pour venir à Siguette. Je vous propose de terminer avec un groupe néo-zélandais de saison, avec un titre psychotrope et estival, Unknown Mortal Orchestra avec Honeybee.
Donc tous à Budapest alors, Mélanie Bauer.
Bah oui, au mois d'août, exactement. On a coupé le solo de guitare qui est quand même très cheesy et qu'on adore. Voilà.
Ah, c'est quoi cheesy?
On peut remonter le solo de guitare.
Il sent le fromage comme la Marseillaise.
D'accord. Allez, on remonte le solo.
Voilà.
Ah oui, il était fini le solo de guitare en réalité. Bah, je
dommage,
vous renvoie
à
Unknown Mortal Orchestra, sinon allez à Budapest. Ah oui. Et si vous n'allez pas à Budapest, Budapest viendra à vous en salle demain avec demain. Le film de Xavier Jeanze dans lequel joue notre invité Alix Poisson, aux côtés d'Alice Belaïdi, de Aude Le Gastelois aussi, de Tamar Barouche, de Thomas Ancora, et puis le fameux trio Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe bien sûr. Alix Poisson à vos côtés, il il y a un certain Guillaume Meurice.
Oui, c'est vrai, c'est moi. Je vais vous parler d'ordures radioactives aujourd'hui. Attention, je ne vise personne à Radio France, hein, bien évidemment. J'ai dit radioactive, j'ai pas dit radio qui fait la sieste. Et notamment, je vais vous parler de ce qui se passe à Bure, qui est censé être le futur site d'enfouissement des déchets nucléaires, avec pas mal d'incertitudes, parce que ce sont des déchets qui restent dangereux pendant des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Alors, je vous rappelle que les pyramides d'Égypte, c'était il y a quelques milliers d'années, et on pige toujours pas. Okay. Gérard Collomb, c'est pareil. C'est à peine plus vieux et on pige toujours pas non plus. Donc, il y a beaucoup de flip autour de ça. Pour essayer de rassurer tout le monde, parce que c'est ma mission dans cette émission, je suis allé au grand salon du nucléaire ce matin. Et on commence direct avec une professionnelle de la com. Donc, c'est une personne qui fait de la mise en relation, qui fournit des éléments de langage pour l'industrie du nucléaire. Parlons donc du projet à Bure.
Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je suis pour le projet. Parce que je pense que...
oui, pour le projet, mais quand même.
Non, je suis pour le projet.
Oui, là, non, mais d'accord, non, mais c'est vrai. C'est pas évident. Trouver des arguments pour dire aux gens, vous permettez qu'on stocke 10 000 tonnes d'uranium sous votre véranda? c'est pas simple. Mais bon, elle est pour le projet.
Sincèrement, je suis pour le projet. Je suis pour le projet.
Mais est-ce qu'il est pas un peu flippant ce projet?
Non, pas plus flippant que de laisser les déchets au pied des centrales.
Ah bah oui, bah vous êtes bien sympa hein, les gens, mais qu'est-ce qu'on en fait des déchets hein, on va pas les laisser là au pied des centrales, c'est pour ça qu'on les met dans votre jardin. Voilà, hein, soyez pas pénibles. Les opposants, c'est vrai que c'est toujours chiant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles pensent des manifestants?
Chacun est libre de s'exprimer, sans violence, sans... mais bon.
Mais est-ce que vous les comprenez quand même, ces manifestants, qui veulent pas de déchets nucléaires près de chez eux?
Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je suis pour ce projet-là et j'en ferai sa promotion.
Donc, oui, mais c'est pas ma question.
Je les comprends. C'est une question piège.
Oui, c'est la réponse même que je dirais qui est piège.
Okay, c'est un terrain spécialisé de la com.
C'est la mise en relation, du conseil. Elle avait le compteur Gégère à 10 000. Mais il faut quand même pas paniquer. Je rappelle que je suis là pour rassurer vraiment tout le monde. Tout est une question de pédagogie.
Il faut bien expliquer qu'on maîtrise tous les risques en France, y compris au niveau de la problématique de l'enfouissement.
Mais on maîtrise les risques jusqu'à quand?
Il y a une période de réversibilité sur le projet d'enfouissement. On estime que d'ici quelques années, ce problème sera réglé.
Mais est-ce qu'on est sûr?
Ça fait partie des risques. Je pense qu'on trouvera des solutions.
Oui, donc on va se démerder. Non, mais parce que c'est Michel qui s'en occupe. Puis là, il est en congé paternité. Il n'a pas eu le temps de se poser la question de savoir si ça allait nous péter à la gueule dans quelques années. Mais dès qu'il revient, on bosse là-dessus. Parce que vraiment, non, mais attendez, parce que je vous le répète, il n'y a pas de souci, d'accord?
Sur le stockage, quand c'est dans un fût hermétique, ça rayonne pratiquement plus. Hein,
donc... Oui, mais il est hermétique combien d'années, ce fût?
Quand il est à l'intérieur, ça, c'est conçu pour.
Hein. Oui, c'est conçu pour ça. Bon, on maîtrise. Voilà. Parce que, non, mais on a tendance à paniquer parce que c'est vrai que si on tape incident nucléaire en France sur Internet, ça vous donne vraiment envie de vous faire des sandwichs à l'iode, de bouffer que de l'iode tous les jours, de sniffer de l'iode. Hein, d'ailleurs, Hippolyte a déjà testé, à mon avis. Mais je vous rappelle, restez calme. Tout est un problème de communication.
Le logo du nucléaire est déjà anxiogène. On voit des têtes de mort, etc. Donc, forcément, ça inspire pas confiance.
C'est vrai qu'on aurait mis un bisounours.
Oui. Voilà, ouais, mais en revanche, c'est l'industrie la plus sûre du monde, même si, évidemment, on déplore quelques accidents.
Voilà, c'est vrai. Bon, des fois, ça déconne, mais quand ça déconne pas, c'est l'industrie la plus sûre du monde. C'est comme Castaner, quand il dit pas de conneries, c'est vraiment le mec le plus brillant de sa génération. D'ailleurs, au niveau de la sécurité des centrales nucléaires...
On sait qu'on peut pas rentrer comme dans un moulin, hein, entre guillemets. Donc, dans les centrales, on a vraiment des passe-droits. Il faut faire tout un tas de documents avant de pouvoir accéder sur un chantier.
Bah, Greenpeace a prouvé le contraire il n'y a pas si longtemps.
Oui, mais après, c'est des questions d'accès, contrôle d'accès. Et ça ne nous regarde pas, nous, industriels.
Non, voilà, ça concerne les industriels des serrures. Essentiellement, tout ce qui est serrurier. Parce que c'est vrai qu'à Cattenom, Greenpeace avait quand même eu le temps de faire péter des feux d'artifice à l'intérieur. Donc, on se dit, heureusement, c'est des barbus écolos. Hein, c'est pas des fous de Dieu, c'est des fous du tofu. Donc, on a eu du bol. Mais dans le doute, bon, comme il reste quelques jours de captivité à Nicolas Hulot, au ministère de l'écologie, hashtag
Free Nicolas,
peut-être qu'il pourrait avoir un peu de panache pour renoncer au projet à Bure comme il s'y était engagé. Bon, moi je pense qu'il faudrait au moins ça pour pas qu'il finisse lui-même dans les poubelles de l'histoire, en compagnie de ses convictions et de sa crédibilité.
Merci Guillaume Meurice.
En Wallonie, à Tihange, il y a un an ou deux, donc c'est une des plus grandes centrales nucléaires, ils ont donné des pilules d'iode à tout le voisinage en expliquant qu'il n'y avait vraiment pas de problème. Mais on vous donne quand même.
Mais en France,
il y a ça, ouais, toute la... Tous les villages qui sont aux alentours.
Ils prennent même pas la peine de mentir. C'est-à-dire, on pourrait leur avoir balancé 2-3 mensonges bien carabinés et puis ils les ressortiraient, mais non, même pas.
Non, mais en fait, comme vraiment, c'est le sujet
des archers.
Parce que personne ne sait quoi en faire, en fait. Il n'y a pas de solution.
Oui, bien sûr.
Donc, le seul argument, c'est de dire.
Mais le principe des éléments de langage, c'est quand même de.
Ouais, mais non.
C'est formidable. C'est magique. C'est la magie de la communication et du nucléaire. Avec Alix Poisson, parlons de cet autre très joli projet. La Guyane qui est convoitée pour son or. Tout va bien sur la planète.
Oui,
un projet d'extraction baptisé la Montagne d'Or a été déposé par une entreprise aux capitaux russes et canadiens qui promet 750 emplois en Guyane. Mais cette montagne, c'est plutôt...
750 emplois.
Ouais. Cette montagne, c'est plutôt une fosse grande comme 32 stades de France en pleine forêt amazonienne pour extraire 80 tonnes d'or au moins pendant 12 ans. Emmanuel Macron est favorable à ce projet. Mais pas Nicolas Hulot. Hashtag free Nicolas Hulot.
Ne criez pas avant d'avoir mal.
Pardon.
Si je vous dis cocotier.
On sert quoi?
Notre coco, tropique.
Bravo, gagné. Pour vous, ça sera la Guyane.
Mais pourquoi pas Tchernobyl? Enfin, je croyais que je devais faire mon stage.
Mais justement, nous allons relancer le tourisme en Guyane. Nous sommes les derniers en Amérique du Sud. Il faut siffler la fin de la récréation. Votre stage, certifié, un chantier aux normes européennes. Et vous aurez la responsabilité de poser la première pierre du chantier guyanais. La France va montrer à l'Amérique du Sud que nous pouvons amener sous les tropiques ce que le monde entier nous envie, le froid. Nous allons construire la première station de ski indoor en Amazonie. À neige artificielle.
Ça, c'est un extrait de La Loi de la Jungle, le film d'Antonin Perejatko avec Jean-Luc Bidault et Vincent Macaigne, notamment. Vous aviez entendu parler de ce projet, vous, Alix Poisson, de Montagne d'Or en Guyane,
ouais,
d'exploitation.
Oui, un peu, ouais.
Et tous ces sujets, comme on a entendu celui de Guillaume, l'exploitation de cette fosse en Guyane, etc. Est-ce que ça réveille en vous votre fibre écolo, indignée, énervée?
Elle a pas besoin d'être réveillée, ouais, parce qu'elle est bien là, mais par contre, ça me met hyper, hyper en colère. C'est-à-dire que, alors, comme je vous disais tout à l'heure, mais moi je viens de tourner une série sur une série politique qui montre
pour Arte,
les liens pour Arte, qui s'appelle Jeu d'influence, qui est réalisé par Jean-Xavier de Lestrade, avec qui j'avais déjà tourné, et qui montre en fait la triangulaire infernale entre le journalisme, le monde politique et les lobbies, et notamment les lobbies agricoles. Et du coup, je me suis beaucoup documentée avant de tourner cette série, et comme beaucoup de gens, j'imagine, mais j'en suis ressortie vraiment avec l'impression de me faire empapaouter. Mais alors, un truc... Non, mais de manière insensée et grave, et on le sait, mais après, dès qu'on commence à lire vraiment des choses précises dessus, par exemple ce qui s'est passé en Guadeloupe, je veux dire maintenant on sait qu'il y a des perturbateurs endocriniens et des pesticides qui ont été déversés, il y a eu un nombre d'épandages hallucinant, puis comme par hasard c'est une zone où il y a une augmentation des cancers, une augmentation des enfants qui ont des malformations, enfin c'est un truc insensé. Mmh. Et donc là, je suis pas très renseignée sur ce sujet-là, mais ça peut pas ne pas me faire peur, quoi.
Effectivement, voilà. Déforestation, puis l'utilisation de dizaines de milliers de tonnes de cyanure pour
mais
extraire
c'est ça,
l'or,
c'est une cyanure,
de 57 000 tonnes d'explosifs, ça va être feu d'artifice.
Petite remarque, hashtag Père Jupiter, il y a des gens qui vous demandent de faire attention à votre vocabulaire, vous avez utilisé doudingue et empapaouté, et apparemment en 2018...
Qui sont des mots du 19e siècle,
voilà,
tout à fait.
C'est interdit.
Et l'autre jour chez Nagui, j'ai dit maugré.
Attention, embûché chez Nagui, c'est possible.
On adore, c'est le vocabulaire macroniste.
Ah non.
Alors, et voilà, vous allez énerver mon invité.
C'est un vocabulaire croquignolé. Mais c'est vrai qu'alors qu'on essaye d'abandonner les hydrocarbures, cette idée de mine d'or, est-ce que ça ne vous paraît pas, même autour de la table, quelque chose d'un peu anachronique quand on parle de mine d'or, d'exploitation du sous-sol?
Ça fait un peu marsupilami, je trouve.
C'est ça. Oui, avec le.
Non, mais c'est un gros marché à l'or, et notamment l'or clandestin en Guyane, c'est énorme, quoi. Donc c'est aussi, je pense que c'est lié à ça.
Ils font ça pour lutter contre leur paillage aussi, un
peu. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Oui. Je ne connais pas les détails du dossier, mais je pense qu'il y a ça.
Et puis le choix de civilisation auquel on est confronté tous les jours, c'est
on nous dit oui, mais les emplois. Alors c'est ou les emplois ou détruire la nature et donc notre futur.
Mais c'était pas Make Our Planet Great Again ou un truc
je
comme ça. Il
n'y
avait pas de truc. Il me semblait qu'il y avait un slogan à mon avis.
Ça veut dire quelque chose, ça, Alix Poisson?
Oui, non, mais
Make Our Planet Great Again.
J'avais vu passer ça.
Votre prise de conscience écolo, vous l'avez depuis longtemps et vous vous rappelez d'un déclencheur ou ça s'est fait progressivement?
Un déclencheur vraiment non.
En regardant Ushuaïa peut-être.
Mais ceci dit, on rigole, mais
c'est comme ça.
Bah oui, les premiers trucs où tout à coup, moi j'ai le souvenir d'une émission où vraiment j'avais dit à ma mère après, faut vraiment qu'on arrête de consommer du plastique comme des dingos. On peut faire autrement, notamment boire l'eau à la maison. On n'est pas obligé d'acheter des bouteilles en plastique. Et c'était des trucs très très nouveaux quand même
bien
à l'époque.
Sûr. Oui, c'est un lanceur d'alerte, Nicolas Hulot au départ. Hashtag free Nicolas Hulot.
Ils nous l'ont tout cassé.
Allez sur change.org et sur notre page Facebook. Rejoignez le front de libération de Nicolas Hulot pour qu'il soit libéré cet été. Voilà. Allez, Alix Poisson, notre compagnie, elle est dans le film Budapest de Xavier Jeans qui sort en salle demain, film de déglingo. Un autre déglingo autour de cette table, Hippolyte Girardot. Arrêtez de regarder le match, Hippolyte, c'est 0-0.
Mais je me rends compte que même si on a avec nous Alix Poisson, il n'y a toujours pas de but à Pest.
Ah non, voilà,
je
n'ai
pas de chance, mais du tout.
Oh, quelle est mauvaise.
Toujours pas de but à Pest.
Mais il fallait la faire.
C'est vrai.
Sinon, allez, tu l'aurais peut-être faite.
Rattrapez-vous.
Donc, je vais parler de Coco. Coco. Ah. Coco. C'était une gorille exceptionnelle qui a été adoptée quand elle était bébé par une ethnologue, Penny Patterson, qui avait décidé de lui apprendre la langue des signes. Et Coco est morte la semaine dernière à l'âge vénérable de 46 ans et c'est l'occasion de voir sur le net plein de vidéos d'elle, dont une assez merveilleuse avec le comédien Robin Williams qui lui fait des chatouilles et qui en pleure de joie. Coco non seulement communiquait, mais elle avait des choses à dire. Ce qui n'est pas toujours le cas, sauf dans les interviews de Guillaume Meurice, ou même quand on n'a rien à dire, on parle quand même dans le micro puisqu'on vous le tend. C'est ce qu'on appelle une sorte de réflexe. Et Coco jugeait sévèrement le comportement des hommes envers leur planète, était très copine avec un tout petit chaton qu'elle avait adopté, et avait aussi appris à mentir, ce qui est, plus que le rire, le propre de l'homme. Et on n'a jamais vu Coco avoir un geste déplacé, violent, qui aurait été le propre de l'animal, et bien sûr de l'animal sauvage. Un réflexe, quoi. Idiot, mais animal. Par exemple, impossible d'imaginer Coco foutre une gifle à un enfant, et encore moins à un bébé. Pas comme dans cette vidéo où j'ai vu un vieux monsieur, je ne sais pourquoi, vêtu d'une robe, claquer un nourrisson venu là contre son gré. Une bonne mandale pour calmer, comme il disait, cet enfant qui hurlait de terreur, ce que on ne manquerait pas de faire face à ce bourreau, évidemment. L'effet fut immédiat, les cris de l'enfant redoublèrent de puissance. Mais ce vieillard en soutane ne doit connaître des principes éducatifs que la pédagogie noire qui éduquait les enfants à coups de martinets, de règles sur les noix et d'humiliations de toutes sortes. Lui-même, probablement éduqué ainsi, il a donc eu un réflexe idiot mais humain. Si ça crie, tu gifles. Ce pauvre Samuel Umtiti, lui aussi a eu un mauvais réflexe. Lors du match de la France contre l'Australie, il a arrêté le ballon de la main. Et il a expliqué ainsi son geste malheureux. Je saute, au moment où je me retourne, le ballon tape ma main et l'arbitre siffle pénalty. Alors moi je dis tout de suite à Samuel, écoute, non, c'est pas le ballon qui a eu un mauvais réflexe, c'est ta main. Parce qu'on a tous des réflexes idiots, idiots mais humains. C'est comme ce commentateur sur beIN Sport, il y a quelques jours, lors du match qui opposait le Nigeria contre l'Islande. Le Nigeria contre l'Islande. Hein. Vous voyez la différence de couleur de peau, je vous explique. Tout le monde a compris. Bien. Donc, alors que le joueur de football nigérian Wilfried Nidi envoie une touche trop courte, le journaliste affirme qu'il a besoin de banania pour avoir de la puissance. Plus tard, il ajoutera, pour se justifier, « J'ai dit banania comme j'aurais pu dire poulain ou benko ». Ah non mec, t'as dit banania et t'as pas dit poulain ou t'as pas dit benko parce qu'il n'y a pas de petits chevaux qui courent sur le terrain mais des noirs comme sur le paquet de banania et c'est pour ça que t'as dit ça même si tu es toi-même un homme de couleur et même si, comme tu précises, un de tes meilleurs amis est sénégalais. Et oui, il l'a dit sans y penser, comme le curé tape un bébé, comme la main d'Imtiti se lève pour arrêter un ballon, même si les trois gestes restent incomparables en gravité. C'est un réflexe, et oui, un réflexe idiot, mais humain, car l'humain est idiot, ce qui ne le rend pas excusable de ses idioties. Alors parfois je me dis que c'est eux que l'ethnologue Penny Patterson aurait dû éduquer. Et je me dis aussi que l'homme d'église et celui des médias auraient pu passer voir Coco, à qui, à ce moment-là, on aurait pardonné d'avoir un réflexe. Un réflexe idiot, mais animal. Une gifle à 45 km/h de sa main en cuir de 50 kg. Et pourquoi pas une double? Allez! Merci Coco.
Hippolyte Girardot, merci beaucoup pour cette chronique. En compagnie d'Alix Poisson, on va aborder ce dernier thème qui a trait au film Budapest.
Carrément.
L'enterrement de vie de garçon ou de jeune fille est devenu une industrie. Ce folklore était pourtant peu pratiqué, paraît-il, il y a 20 ans. Aujourd'hui, il faut avoir survécu à son week-end de débauche avant de tenter de survivre au mariage. Est-ce que ça incite à s'engager, tout ça?
Moi, je veux rester célibataire, monsieur.
Mais le célibat, ne croit surtout pas que ça soit dans la poche. Tiens, moi, par exemple, toute ma vie, je me suis défendu pied à pied. Toute ma vie, j'ai été poursuivi par une malédiction. À chaque fois qu'une femme me voit, faut qu'elle s'emballe. Tiens, voilà Albert, ça y est, elle a l'œil qui s'unecte.
Moi, c'est bien simple. Depuis ma première communion, j'ai l'impression que ma braguette est ouverte. Je passe mon temps à me vérifier.
L'enfer, on sait ce que c'est. On peut en parler. On en revient.
Calmos de Bertrand Blier avec Marielle et Rochefort notamment. Alix Poisson, vous avez déjà participé, vous, à des enterrements de vie de jeune fille?
Non,
pas du tout.
Jamais.
Ouais.
Non, jamais.
Il paraît que c'est assez récent parce que grâce au film Budapest, il y a quelques papiers qui sont publiés dans la presse ou des reportages en télévision avec des sociologues qui s'expriment et qui racontent que ça existait de façon un peu sporadique il y a quoi, 15 ans, 10 ans et que là maintenant, il y a 65% des jeunes qui font leur premier mariage hein, quand c'est le deuxième, on n'enterre pas une deuxième fois. Mais donc que c'est assez récent. Donc,
Moi, j'ai appris ça en faisant le film, je pensais pas du tout parce qu'on a rencontré donc les deux, les vrais.
Ah oui, ça part d'une vraie histoire.
Bah oui, ça part d'une vraie histoire quand même. Et c'est hallucinant, parce que je ne savais pas du tout que c'était un business à ce point-là. Quoi. Il y a vraiment des boîtes qui offrent tout ce qu'on peut imaginer de plus dingos. Et dans plein. Mais ils ont une boîte dans toutes les capitales d'Europe. Enfin, c'est. Oui. Et je ne savais pas que, effectivement. Ouais, à 60-70%, les gens, quand ils se marient, maintenant, ils enterrent leur vie de garçon ou de jeune fille. Je ne savais pas.
C'est de la responsabilité du témoin, normalement.
Oui, c'est ça. Qui est vachement content.
Alors là, il ne se foule plus, alors, le témoin.
C'est ça l'idée.
C'est que le témoin, il ne se foule plus, parce que j'imagine que la démarche, c'est aussi de confier à son témoin l'organisation. Donc, quelque chose d'un peu artisanal, d'imaginer quelque chose. Là, on paye 400 boules à.
Non, mais on peut imaginer un programme complet. Pour l'avoir fait, déjà, en tant que témoin. Et puis, je l'ai fait en tant que participant. C'était à Amsterdam.
En mode Budapest, un peu.
Et je me suis endormi.
Amsterdam, c'est l'autre destination.
Tellement sous que je me suis endormi avant l'arrivée de la stripteaseuse. Donc, je ne sais pas vous raconter ce qui s'est passé.
Je crois que c'est étudié pour.
Mais le marié.
Vous savez, les stripteaseuses sont malines.
Le marié était réveillé, lui. Mais voilà.
Et souvent, ça se conforme tout le monde dans les stéréotypes sexistes. Sinon, c'est pas rigolo.
Non, c'est pas le genre.
C'est un peu l'objet du film aussi, quand même.
Bah oui, mais après, ce qui est. Enfin, moi, ce que je.
Il y a des Chippendales aussi, quand même, chez les filles.
Oui, ça je sais pas, je pourrais pas vous dire si les filles sont hyper.
Les filles, il paraît que c'est très spa.
Oui, il y a du spa.
Il y a du spa.
Il y en a aussi comme de l'enregistrement de disques, j'ai déjà vu ça aussi. Elles vont enregistrer une chanson toutes ensemble.
Ouais, d'accord. Non, mais moi ce que je trouve bien, c'est que du coup, là, ça part carrément dans le burlesque. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui au départ, effectivement, peut être un peu sexiste.
C'est le moment où on peut s'autoriser à l'être.
C'est-à-dire que d'un coup, ça part tellement en vrille, et puis leur nana, leur femme, pardon, sont quand même. Un peu plus complexe et du coup ça donne un bon contrepoint, enfin j'espère, mais ce qui est fou, c'est quand ils partent complètement en... c'est-à-dire que ce qu'ils pensaient être le truc le plus intéressant au départ, les striptease, la drogue, le tirer sur des tanks et tout ça, s'avère quand même être un énorme piège dans lequel
n'en dites pas plus. Voilà. C'est Budapest en salle demain. Alix Poisson, on rêve d'un rôle pour vous.
En fin d'émission, on propose un rôle à l'invité.
Oh mince.
Et vous êtes la dernière invitée féminine de l'année, alors évidemment.
Oh là là.
Brigitte Macron, évidemment.
C'est un classique.
Évidemment, on est au Vatican. Brigitte Macron n'est pas bien potassée la visite. Emmanuel Macron, c'est Guillaume Meurice. Et le pape François, c'est Hippolyte Girardot.
Attendez, je suis qui, moi?
Je suis Brigitte.
Ah oui, j'ai pris.
Entre ici, mon fils.
Gérard, mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, pas l'idiot, je t'ai reconnu. T'es Gérard Collomb.
Mon colon va très bien, merci madame.
Mais Brigitte, un peu de retenue là.
Un vieux avec une élocution difficile, c'est forcément Gégé.
Non mais Brigitte, ce monsieur c'est le pape.
Ouais c'est ça, et moi je suis la femme du président de la République peut-être.
Oui, je te confirme, oui.
Monsieur Macron, je vous nomme chanoine d'honneur de la basilique Saint-Jean de Latran.
Ah bah ça n'existe pas, tu vois, je suis certaine qu'il invente.
Non mais Brigitte, on est là pour draguer l'électorat catho là.
Hein? Il est formidable, le pape. Hein.
François, pas François.
François rend l'argent.
Non, mais je comprends rien. Pardonnez-la, c'est de l'humour français, monsieur.
Ça existe. Je croyais que l'humour français, c'était comme la Sainte Vierge.
Ah oui, c'est marrant. Souriez, François, le photographe de Paris Match est là.
Oh oui, une photo pour faire la une.
Sois plus discrète, il faut pas trop qu'on voit que c'est de la com. Là.
Ah oui, t'as raison. Oh,
Les pauvres sont tellement médisants.
C'est la vocation des gouvernants de protéger les pauvres.
Ben voilà, c'est reparti, le vieux il débloque.
Et tout est chiamo poveri.
Pardon ? Ricky est poveri ? Ça rappelle qu'il y
a, moi. Non, il a dit « et nous sommes tous des pauvres ».
Oh, il se fout de notre gueule, non ? Il n'a pas entendu parler de notre nouveau service de vaisselle.
Pardonnez.
Bah, nous, pas des ados, hein. Toi, pas devoir humilier nous, hein.
Non, mais Brigitte, sois généreuse un peu,
on
là.
On pourrait lui faire cadeau de la vieille vaisselle de l'Élysée, peut-être.
un cadeau, où ça ?
Non, alors, voilà, j'ai apporté ceci, le livre « Journal d'un curé de campagne » de Bernanos.
Mais non, ils s'en foutent, ça. Alors, moi, je vous ai apporté les deux premières saisons de Parents Mode d'emploi.
Ah, merci, ma fille, merci.
Ah non, mais je suis ni sa mère, ni sa fille, hein.
Mais pourquoi tu lui as offert ça, Parents Mode d'emploi ?
Mais parce que ça va le faire rire, ça va lui rappeler les problèmes qu'il a eu avec ses enfants à lui.
Mais non, mais il est pape !
Bah et alors ?
Oh là là.
Et c'est là qu'on voit la comédienne dans toute sa splendeur.
La comédienne de comédie.
Ah ouais, c'est donc
c'est très très drôle.
Très très forte, Alix Poisson dans ce sketch avec Hippolyte Girardot et Guillaume. Merci beaucoup Alix Poisson.
Mais merci à vous.
C'était un kiff de
C'était
vous avoir
super,
parmi nous.
Pareil.
C'est vrai.
Je rappelle donc que Budapest, le film de Xavier Jeans, sort en salle demain avec Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe, Alice Belaïdi, entre autres. Par en mode d'emploi, bah, tous les soirs on se régale à 20h50 sur France 2. Avec Arnaud Ducret.
On se régale et on se dit qu'on n'a pas envie d'en avoir.
Merci. Et merci à toute l'équipe, à Marion Lelay, à la réalisation, à la technique, il y a Rémi Sistiaga, notre équipe Alexia Lacour, Nathalie Romero, Sarah Masson, avec Antoine Asdé pour les blagounettes, ainsi que Frédéric Fromet,
oui,
spécialiste des jeux de mots.
J'espère que vous arriverez à libérer Nicolas.
Oui,
ah oui,
hashtag
oui,
free Nicolas.
Il est toujours bien sûr. Pour l'instant enfermé, mais on vous tient.
Allez, jusqu'à la rentrée, les élèves devront apprendre la Marseillaise. Ne nous arrêtons pas là, hein.
Maréchal, nous voilà.